Une personne sur trois en France est touchée par l'insuffisance veineuse. Selon l'étude récente de l'IFOP qui nous l'apprend, ce sont donc 17 millions de personnes qui sont atteintes de cette affection. Alors vous qui nous écoutez, peut-être que vous souffrez de cette maladie chronique. Donc bienvenue dans ce deuxième podcast, deuxième rendez-vous sur l'insuffisance veineuse. Pour mieux en parler, nous recevons un spécialiste des troubles vasculaires, le docteur Rastel. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous exercez à Grenoble. Docteur Rastel, qui sont les patients qui viennent vous voir? De quoi est-ce qu'ils souffrent?
Principalement, vous savez, c'est les varices, donc des dilatations de veines. Ils souffrent aussi de gonflement de jambes, donc c'est l'œdème. Et ils souffrent de symptômes, et principalement les symptômes, c'est la douleur, la tension et les lourdeurs de jambes. En sachant que parmi ces symptômes, ce qui est important à signaler quand même, c'est que 19% ressentent ces symptômes de manière intense. Et c'est associé effectivement à toute une série de facteurs de risque de la maladie.
Qui sont ces personnes qui sont atteintes d'insuffisance veineuse, ou qui peuvent l'être d'ailleurs?
Alors c'est une question qui n'est pas facile, parce que l'insuffisance veineuse, c'est une pathologie qui va toucher les veines, et c'est une pathologie qui se déroule, qui progresse sur des dizaines d'années. Alors bien sûr, on a toujours la notion des varices chez les personnes âgées, que l'on voit le plus fréquemment, parce qu'effectivement l'âge c'est un facteur qui va favoriser l'évolution de cette pathologie, mais elle commence donc très tôt. La pathologie, elle se manifeste soit par des symptômes, donc c'est ce que le patient ressent, soit par des signes, c'est-à-dire ce que le patient a sur ses jambes que l'on peut voir. La cause, elle est essentiellement due d'ordre génétique. C'est une maladie qui est principalement a un ressort génétique familial.
Ça touche aussi d'autres personnes, et ça n'est pas que génétique, hein, si je comprends bien.
C'est principalement génétique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui vont aggraver, voire faire progresser la pathologie. Hein, on connaît les grossesses, hein, qui sont des facteurs de risque, les stations debout prolongées et assises prolongées. On oublie souvent la station assise prolongée, qui est le fait même donc des conditions de travail actuelles. Hein. Et puis aussi, l'obésité, c'est vrai qu'il y a un lien avec la pathologie, il n'est pas encore très clair. On ne sait pas si l'obésité, par exemple, va favoriser l'émergence de la maladie ou si l'obésité va aggraver la maladie qui préexiste déjà. Mais bon, en tout cas, il y a un lien avec ce facteur de risque.
Et ces personnes, enfin ce sont là les facteurs de risque, cette maladie, elle peut évoluer sur un long temps, si je comprends bien?
Alors oui, c'est une maladie qui est évolutive, dans le sens où quand on commence à avoir des petits signes de la maladie, c'est-à-dire des petites dilatations toutes petites, on se dit oui, c'est pas très grave, et finalement ça va pas évoluer, et en fait c'est faux. Donc ça va évoluer. Alors on ne sait pas, par contre, anticiper l'évolution, c'est-à-dire on ne sait pas si chez une personne, il y aura une évolution vers des varices, une évolution simplement vers l'aggravation de ces toutes petites dilatations, ou si va s'y associer des symptômes, ou voire même de l'œdème. L'œdème, c'est la rétention d'eau, c'est-à-dire c'est l'eau qu'on a de manière anormale sous la peau. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est une évolution progressive sur des dizaines d'années. Oui.
Et qui peut toucher donc ou se déclarer à plus ou moins n'importe quel âge, et qui va toucher essentiellement des femmes, des hommes?
Alors, c'est principalement, dans les études épidémiologiques, c'est principalement des femmes, oui, oui. Parce qu'on a le facteur de risque, on a dit la grossesse, qui favorise, et probablement aussi le statut hormonal, le fait d'avoir des œstrogènes, qui jouent un rôle de dilatation des vaisseaux, et probablement une dilatation des veines. Il y a une maladie qui se développe beaucoup plus chez la femme.
Oui, donc des symptômes que vous nous avez expliqués, docteur Rastel, des situations à risque qui peuvent déclencher la maladie. Au-delà de ces symptômes, il semblerait que cette maladie ait un réel impact sur la qualité de vie des personnes. Vous l'avez sans doute vérifié dans votre cabinet, docteur Rastel.
Alors oui, bon, ça a été déjà montré dans beaucoup d'études, mais oui, parce que ça a à la fois un impact psychologique, et ça a bien été démontré par des études, notamment des études allemandes et suisses, et puis donc un impact physique. Ça touche principalement une population, on va dire, de femmes jeunes et actives, et qui vont souffrir des jambes de manière régulière, puisqu'en fait c'est une souffrance, bon, qui, bien qu'elle soit accentuée par la chaleur et la position debout, c'est une souffrance quand même qui peut survenir en dehors du fait qu'on travaille dans une ambiance chaude ou qu'on soit debout. Donc ce sont des symptômes, principalement la douleur et la lourdeur, qui sont permanents. Effectivement, ça entraîne aussi de la fatigue et ça perturbe la qualité de vie. Ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Ce qui est absolument indispensable, c'est dès qu'on a des symptômes ou des signes d'insuffisance veineuse, il faut au moins qu'il y ait un bilan préalable chez un spécialiste. Ça, c'est indiscutable. Parce que c'est lui qui va d'abord insister sur le fait qu'il y a des moyens de prise en charge. et donc on peut les appliquer assez tôt, même si ça paraît au départ relativement bénin, même si la souffrance n'est pas très importante, même si les signes ne sont pas très importants, il y a des moyens qu'il faut mettre en place très tôt pour inciter les patientes à se prendre en charge au niveau de leurs jambes.
Parce que c'est ça qui est troublant, hein. C'est quand même une maladie qui est très répandue, on l'a dit, une personne sur trois, 17 millions de personnes, et qui est relativement méconnue. Donc les gens ne se prennent pas forcément en charge.
Oui, parce que moi, l'expérience que j'en ai, c'est que ces patientes-là, elles voient souvent des dilatations qui ne sont pas des varices. Les varices, c'est quand on a une dilatation veineuse de plus de 3 mm. Mais souvent, c'est plus petit. Et donc, ça ne fait pas forcément mal au départ, ces veines. Et donc, finalement, c'est négligé. On dit oui, bah, c'est comme ça. Il faut vivre avec. Les symptômes, c'est la même chose. C'est principalement la douleur, la lourdeur et parfois le prurite, le grattage. Mais finalement, c'est pareil. Les patients vont dire, oh bah oui, c'est parce que j'ai porté des bas, ça m'a gratté, ça m'a irrité la peau, ça m'a asséché la peau. Et la douleur, bah, on supporte. Et puis bon, il y a, je crois, la notion aussi que c'est une pathologie dont la prise en charge est limitée et qu'il n'y a pas vraiment de moyens pour arranger les choses. Donc je pense que tout ça faisant, il n'y a pas une conscience vraiment très marquée comme quoi c'est une pathologie qu'il faut prendre tôt et dont il faut s'informer. C'est pour ça que la première étape de la consultation est une étape importante pour restituer un petit peu la réalité de la pathologie et puis quand même qu'il existe des moyens de prise en charge, au moins de soins de jambes en tout cas, au minimum de soins de jambes.
Donc sans faire une obsession, si on a des grattements, si on a cette lourdeur, cette nervosité dans les jambes, si on a des difficultés à se baisser, etc., c'est peut-être pas mal d'aller consulter un spécialiste des maladies vasculaires.
Oui, tout à fait. On ne peut pas penser que c'est normal. Voilà, on ne peut pas penser que c'est normal.
D'accord. Est-ce qu'on peut d'ailleurs se dire que si on ne fait rien, ça peut s'aggraver? Quels sont les risques à laisser s'installer, cette insuffisance veineuse?
Oui, c'est toujours difficile à dire. En tout cas, en ce qui concerne les symptômes, c'est une personne qui souffre. Là, c'est sûr qu'on imagine très bien quel puisse être le risque. C'est l'accumulation de la douleur sur des mois, voire des années. C'est l'accumulation de la fatigue. À un moment donné, ça pourrait déboucher sur des problèmes. Et ça, je vous dis, ça a déjà été montré, des problèmes psychologiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir un retentissement psychologique important, peut-être même sur la qualité du travail, peut-être même sur la présence au travail. Et c'est possible, c'est quelque chose qui est imaginable. Alors en ce qui concerne les signes, c'est-à-dire les dilatations, quand on a des toutes petites dilatations, c'est vrai que bon, on n'a pas un risque forcément important de voir déboucher ça sur quelque chose de plus sévère. La sévérité dans cette maladie, c'est en fait l'atteinte de la peau. C'est qu'à partir d'un certain moment, la peau va se transformer, elle va être en souffrance parce que on a ces réseaux veineux qui sont anormaux, qui refluent, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement du flux sanguin qui n'est pas dans le bon sens et qui crée une inflammation de la paroi veineuse. Donc la veine va se transformer et va entraîner donc l'œdème, c'est-à-dire la présence d'eau sous la peau, mais aussi une inflammation de la peau.
La première étape, c'est généraliste?
Oui, en général, c'est ce qui se passe. Les patientes sont adressées par le médecin généraliste parce qu'elles en parlent. Mais on a parfois aussi des accès plus directs, hein, parce que les patientes ne sont pas forcément toujours écoutées, ou alors elles n'en ont pas parlé avec leur médecin généraliste, parce qu'elles considèrent finalement que ce n'était pas très important. Puis au bout d'un moment, voilà, il faut consulter. Vous savez, les personnes sont informées quand même, savoir qui est spécialiste de quoi. Et donc, en ce qui concerne la maladie veineuse, elles savent se tourner vers eux, par exemple, pour les problèmes esthétiques. Donc ça, c'est une porte d'entrée aussi, parce que c'est vrai qu'elles ont des petites dilatations, donc ça a un côté plutôt esthétique au départ. Elles n'ont pas forcément de souffrance, elles vont voir qui, elles vont voir le médecin qui va leur prendre en charge ces petites dilatations. Elles ne passent pas forcément par leur médecin généraliste pour ça. Et à ce moment-là, par contre, pour le médecin spécialiste, c'est important de ne pas se cantonner à la prise en charge uniquement esthétique, mais bien d'avoir un discours plus général sur la pathologie et plus général sur sa prise en charge, oui.
Alors il y a peut-être plusieurs choses sur lesquelles on va revenir. Déjà peut-être rappeler le mécanisme, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Le mécanisme simplement de cette maladie, qu'est-ce qui se passe très rapidement dans une veine quand ça ne marche pas bien?
Dans l'ensemble, les veines, ce sont des tubes, enfin on considère ça comme des tubes, mais ce sont des véritables organes qui font passer le sang, donc des extrémités, jusque vers le cœur. Donc elles fonctionnent dans un seul sens. Et elles sont équipées donc de petites valvules pour éviter que le sang, lorsqu'on arrête de marcher par exemple, eh bien redescende vers le bas des jambes. Donc ce sang va se mettre à circuler dans le mauvais sens, en même temps qu'il circule dans le bon sens et dans le mauvais sens, et il va entraîner une inflammation de la paroi veineuse. Voilà. Donc cette paroi veineuse, du fait de subir ce courant dans le mauvais sens, va devenir inflammatoire. On doit parler plutôt actuellement d'une prise en charge personnalisée. Parce que dans la pathologie veineuse, chaque personne est quelque part une manifestation différente de la pathologie. Et non seulement chaque personne, mais même chaque jambe. Donc c'est non seulement une pathologie qu'on doit prendre en charge de manière personnalisée, parce que chaque patient est différent, chaque patiente est différente, mais aussi sur chaque patiente, chaque jambe doit nécessiter une prise en charge différente.
Être à l'écoute de son corps, ne pas hésiter à aller voir le médecin, oui. et puis cas échéant, donc le spécialiste. Vous dites souvent « patiente », elle, on a quand même majoritairement des femmes.
Oui, c'est ça, on a majoritairement des femmes. En tout cas, c'est plus les femmes qui consultent.
Alors c'est ça peut-être qui est important à dire, parce que plus de femmes qui consultent, mais des hommes qui sont aussi atteints, et j'en viens du coup peut-être au premier geste que vous proposez, au premier traitement que vous préconisez, les traitements de base, quels sont-ils et à qui ils s'adressent ?
On utilise maintenant moins la chirurgie conventionnelle où on ouvre pour tirer la veine, on utilise des lasers ou on utilise de la chaleur en fait, qui est administrée par l'intermédiaire d'un système radio, soit d'un système de laser. Et on a aussi ce qu'on appelle la sclérothérapie, qui a fait quand même de grands progrès. La sclérothérapie, c'est injecter un produit qui va détruire la veine par l'intérieur. Et on peut arriver à détruire des veines qui sont de gros calibre avec cette technique-là, et sur des réseaux qui sont assez longs. On peut pas tout faire, mais on fait déjà pas mal de choses.
Mais est-ce qu'on doit attendre d'en arriver à la varice ou
alors,
est-ce que
normalement,
la varice
arrive... non.
Ouais,
alors
on
justement,
peut peut-être avant.
Le deuxième aspect de la prise en charge, c'est quand il n'y a pas ces dilatations ou quand elles sont pas jugées à haut risque. La base, ça reste la compression. C'est-à-dire on utilise un textile qui va comprimer la jambe et qui va permettre d'éviter que ce sang circule de manière anormale au niveau de la peau. Ça a essentiellement un rôle de pression qui se passe au niveau de la peau.
Oui, donc la jambe lourde, c'est un des symptômes qui permet d'aller consulter. Hein. C'est ce qu'on disait peut-être un petit peu tout à l'heure. Et le docteur Rastel nous précisait qu'il y avait donc plusieurs solutions, voilà, notamment celle de la contention. Et je reviens sur cette idée qu'il y a un homme sur quatre qui est... atteint par cette maladie, on dit bien maladie en plus, la contention, c'est pas quelque chose qui spontanément se relie pas forcément à la masculinité. Je me demandais, dans votre cabinet, quel frein vous trouviez dans cette population de patients pour aller sur ce type de soins ?
Le frein, c'est pas au port de la compression, c'est un frein à la consultation chez l'homme. Oui. En fait, on les voit, quand on les voit et qu'on leur propose la compression, la plupart du temps, enfin bon, je n'ai pas de chiffres en tête, bien sûr, la plupart du temps, c'est une acceptation vraiment forte du traitement par compression. Je pense principalement, c'est parce qu'ils n'ont pas consulté avant, parce que ils s'en inquiètent pas trop. En fait, les grosses dilatations cachées sous les poils, qui font pas forcément toujours mal, finalement, ça ils doivent considérer que ça fait partie de la vie et que c'est pas une raison de consulter. Et dès qu'on les voit, et s'ils ont des symptômes, le plus souvent ils ont des symptômes, ils se sentent pas bien au niveau des jambes, et bien quand on leur propose la compression, c'est l'adoption quasiment systématique chez les hommes.
D'accord. Et cette prise en charge, vous le disiez tout à l'heure, elle est vraiment très personnalisée. Comment ça marche, la contention ?
Alors, on parle de compression parce que, d'une manière générale, les anglo-saxons, ils utilisent le mot compression et ils n'ont pas l'équivalent du mot contention. Nous, en France, on a fait la distinction entre compression et contention pour des aspects physiques, en fait, de la pression. Mais on devrait parler de compression. Et c'est un terme qui, je le vois dans la patientèle que j'ai, finalement, est relativement bien accepté. Ils ne parlent pas forcément toujours de contention comme ils le faisaient avant. Ils parlent aussi de compression. Bon, pour revenir à la compression, ça marche en exerçant une pression externe sur la jambe. Cette pression va être retransmise au niveau des veines et des veines pathologiques. Elle va être retransmise au niveau de la peau. Et c'est cette action qui va réduire donc le liquide qu'on a anormalement sous la peau et qui va réduire les tensions qui sont exercées sur la paroi veineuse. Parce que c'est là le point clé de la prise en charge du traitement. Donc vous voyez, tout ça, c'est une prise en charge qui est vraiment individuelle. En plus, la compression, il faut vraiment expliquer aux patients qu'elle doit être portée le plus possible. Mais en tout cas, la compression doit être portée dans les situations à risque, ça c'est sûr. Par exemple, poster debout au travail, c'est une indication de port pendant le temps de travail. Pas forcément après, quand on rentre chez soi, ça dépend. On sait aussi que la compression est plus efficace quand la personne va marcher ou courir. Et donc, c'est faux de dire, par exemple, oh ben oui, je vais me promener en ville, je vais marcher, je vais pas piétiner, mais je vais marcher, c'est pas la peine de porter ma compression. Au contraire, ça serait à ce moment-là où la compression devrait être portée. Dans le cas, par exemple, où les personnes souffrent d'œdème, c'est là où la compression va être plus efficace pour drainer que lorsque elle est, par exemple, en position debout toute la journée. Alors, évidemment, en position debout toute la journée, on imagine bien qu'on doit porter la compression, mais la compression n'a qu'un effet, à ce moment-là, de compensateur. C'est moins efficace que si la personne se mettait à marcher avec sa compression. C'est un petit peu compliqué, mais...
Il y a beaucoup de subtilités.
Oui. Alors, il y a beaucoup de subtilités.
Donc, beaucoup de réponses aussi, en termes de contention.
Bien sûr.
De compression,
alors, une des subtilités, c'est le confort. Ce qui est reproché souvent à la compression, dans les études, c'est ce qui remonte le plus facilement, c'est mal toléré. Alors, c'est mal toléré pour diverses raisons. Ça gratte, ça chauffe, ça, etc. Et là, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut trouver... adapté à chaque type de, je dirais, de peau, non seulement de peau, mais de ressenti, une composition de dispositif, de tricot, puis c'est du tricotage, les bas, une composition de bas qui soit adaptée à chaque type d'individu, sur la qualité de sa peau, mais aussi sur son ressenti. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les industriels, et certains le font très bien, puissent développer un maximum de différentes compositions de bas pour être adaptées à chaque patiente. Non seulement aussi une adaptation à la peau et au ressenti, mais aussi aux situations dans lesquelles ces patients vont se trouver. Les industriels ont la possibilité de pouvoir offrir aux patients un maximum d'offres qui permettraient de répondre à toutes ces situations d'individualisation de la pathologie veineuse.
Docteur Rastel, vous venez de nous dire qu'il y avait une précision, une personne ne réagit pas de la même manière qu'une autre, on peut même distinguer une jambe d'une autre. Est-ce que c'est pour ça qu'on a aussi plusieurs modèles de compression ?
La réponse, c'est oui et non. Il y a plusieurs modèles, donc il y a ce qu'on appelle le bas jarret ou la chaussette qui arrive jusqu'au niveau du dessous du genou. Il y a le bas, en gros, et il y a le collant. En ce qui concerne, par exemple, la douleur, l'essentiel de l'effet antalgique, pour soulagement, est apporté par une chaussette. Ça suffit. Il faut appuyer au niveau du mollet, il faut appuyer au niveau de la cheville. C'est suffisant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a des bas-cuisses ? Alors, on sait que le bas-cuisse, il n'exerce pas une pression qui serait suffisante au niveau de la cuisse pour avoir un effet sur la pathologie. En revanche, il est là... parce qu'il y a certaines morphologies de femmes qui ne pourraient pas être équipées avec une chaussette et qui sont équipées avec un bas-cuisse. D'une autre manière, on pourrait dire aussi qu'il y a des patientes qui sont mieux avec des bas-cuisses, pour des questions vestimentaires ou pour d'autres questions. Et donc, l'observance au traitement est meilleure lorsqu'on leur prescrit un bas-cuisse qu'une chaussette. Mais dans l'ensemble, la chaussette suffit à contrebalancer le mauvais effet de la pathologie. Alors, il y a le problème du collant. Le collant a aussi cet intérêt-là, c'est qu'il peut être aussi lié à des préférences vestimentaires. Mais aussi, il y a le contexte de la grossesse qui, là, privilégie plutôt le collant par rapport certainement au bas-cuisse ou à la chaussette. Et le collant dans la grossesse, c'est quand même un aspect particulier. C'est un dispositif qui est particulier. Il est construit d'une certaine manière. Il y a aussi donc l'aspect de la ceinture, etc., qui vient jouer un rôle favorable par rapport à l'ensemble donc, de la morphologie de la patiente depuis l'abdomen, enfin depuis le pelvis jusqu'au bout des jambes. Donc on a ces trois modèles, en gros, qui sont adaptés et principalement lié aussi au confort pour, je dirais, améliorer l'observance. Voilà, pour améliorer l'observance.
Donc si on résume, docteur Rastel, je me sens peut-être un peu fatiguée des jambes ou nerveuse des jambes ou lourde ou j'ai du mal à accomplir certains gestes quotidiens. Et puis après, je peux voir où en même temps des varices ou pas. Enfin, tout ça, ça m'amène à consulter. Enfin, je ne dois pas négliger tous ces symptômes-là.
Oui, absolument. Ils ne doivent pas être négligés. Donc, il faut d'abord aller voir son médecin traitant. Et puis, alors, lui peut disposer d'outils simples pour savoir si effectivement cette douleur, par exemple, elle est due aux veines ou pas. Et ça, c'est vers le médecin vasculaire, vers l'angiologue, qu'il faut se diriger. Oui, parce que c'est lui qui peut prendre un peu plus de temps déjà pour pouvoir informer suffisamment tôt au sujet de la pathologie, au sujet surtout des moyens de prise en charge. On a parlé aussi on a de la compression, des moyens, mais il faut parler aussi de tout ce qui pourrait être les petits gestes de la vie courante qui permettent donc de se sentir mieux. Par exemple, surélever les jambes, pas la nuit, il faut mieux éviter de surélever les jambes la nuit, mais dans la journée, pour les personnes qui ont les tendances à avoir les jambes qui gonflent. Voilà. Le froid qui soulage. Alors bien sûr, on dit, mes patientes qui me disent, je me passe une douche froide sur les jambes. Bon, bah, très bien, elles se sentent mieux pendant 30 secondes, elles le disent. Mais non, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Il faut leur dire, ben, vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau glacée ou très froide, vous mettez vos jambes dedans et vous gardez ça pendant 15 minutes. Voilà. Et au moins, vous allez réduire la température de vos jambes. Là, vous allez être efficace. Il y a des tas de moyens comme ça qui sont à donner aux patientes. Le fait de marcher avec la compression et non pas de la laisser tomber quand on va marcher. Toutes ces choses-là.
Bien, merci, docteur Rastel, pour tous ces éclairages. On va vous rendre à votre patientèle. Et on peut peut-être conclure ce podcast auprès de nos auditeurs en les invitant à ne pas hésiter à consulter à propos des symptômes qu'on a évoqués tout au long de cet entretien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Sigvaris. Prochainement, nous évoquerons l'entretien et l'utilisation de vos produits de compression. À très bientôt.